Chapitre 7. Au grand jour. J'aurais dû, avant de souffler ma bougie, prier Zilla de me réveiller de bonne heure. Je crus cependant pouvoir me passer de cette précaution. Je me remuais longtemps dans mon lit sans pouvoir fermer l'œil, et vers le matin, je m'endormis d'un sommeil agité. Quand je m'éveillai, je fus bien étonné de voir qu'il était 10 heures. Je sautai à bas du lit et je sonnai la vieille nourrice. Pour lui demander si Lucille était chez elle. « Non, me répondit-elle, elle vient de partir pour faire une petite promenade. Elle est sortie seule et s'est dirigée du côté des sables. » J'en conclus tout de suite que Lucille avait profité des heures précieuses de la matinée que je perdais en dormant pour s'en aller sans moi. Il ne me restait qu'à la rattraper. Une demi-heure après, je me mis en route, en prenant, comme vous pouvez bien le penser, le même chemin que Lucille. Un calme absolu régnait autour de la petite habitation. Je la dépassai pour m'engager un peu plus loin dans le sentier qui contournait la colline. Mais ne voyant personne devant moi, je rétrogradai pour pousser une reconnaissance du côté des sables et, rencontrant le petit renflement de terrain sur lequel elle était assise, j'arrivai par derrière. Les fenêtres étaient grandes ouvertes. Je me mis aux écoutes et sans aucun scrupule, sachez le bien. Bien sot, celui qui n'aurait pas fait comme moi. J'écoutais des deux oreilles et j'entendis un bruit de voix qui provenait de la fenêtre percée sur un des côtés de la maison. Je m'approchai sans faire aucun bruit sur le gazon et j'entendis distinctement la voix de Dubourg. Une voix de femme lui répondit. C'était bien Lucille, je la prenais sur le fait. « C'est merveilleux, dit-il, et l'on dirait que vous avez des yeux au bout des doigts. Pourrez-vous me décrire cet objet ?»« C'est un vase de petite dimension, répondit-elle avec autant de tranquillité que si elle avait connu Dubourg de longue date. « Un instant, dites-moi de quel métal il est fait. Est-il en argent ?»« Non, il est en or. Est-ce vous qui l'avez ciselé, ainsi que le coffret ?»« C'est bien moi. » N'est-ce pas un singulier goût que celui que j'ai pour la ciselure? C'est un artiste que j'ai connu en Italie qui m'a donné des leçons. J'y ai pris goût. J'ai façonné du métal brut le vase que vous tenez avec tous ses ornements le printemps dernier pendant ma convalescence. Encore un mystère qui se découvre, s'écria Lucille. Je vois parfaitement à présent pourquoi vous faites venir de Londres des plaques d'or et d'argent. Mais savez-vous la réputation qu'on vous a faite? On vous soupçonne de faire de la fausse monnaie. Ils se mirent à rire aux éclats comme deux vrais enfants. J'aurais bien voulu faire chorus, mais n'avais-je pas, en femme honnête, à me glisser un peu plus près pour voir si les rieurs ne se permettaient pas quelque familiarité? La croisée était à moitié masquée par un volet qui s'ouvrait du dehors. Je me plaçai derrière ce volet, et je me hasardai à jeter un coup d'œil furtif dans la chambre. Tout pénible que soit ce devoir, je dois vous raconter ce que je vis. Lucille était assise en face de Dubourg, qui tournait le dos à la fenêtre. La jeune aveugle, toute rougissante de plaisir, tenait sur ses genoux un petit vase en or, sur la surface duquel elle passait rapidement les doigts, comme elle l'avait fait sur ma figure la veille. « Faut-il vous décrire les détails du vase ? » dit-elle. « Vraiment, vous le pourriez ? » ?»« Vous allez en juger. Il est couvert de feuilles avec des oiseaux nichés çà et là. Attendez un peu. Je crois avoir touché des feuilles de la même espèce contre le vieux mur du presbytère. C'est du lierre ? » ?»« C'est vraiment à ne pas y croire. C'est du lierre. » Quant aux oiseaux, reprit-elle, « je ne serai contente que lorsque j'aurai découvert à quelle espèce ils appartiennent. Voyons, je crois avoir chez moi des oiseaux sculptés en argent qui leur ressemblent et servent de réceptacle pour contenir le sucre, le sel, etc., etc. »« J'y suis !» s'écria-t-elle d'une voix triomphante. « Ce sont de petits hiboux perchés dans des nids de lierre. Quel charmant travail! Je n'ai jamais touché rien de semblable !» « Vous me ferez un grand plaisir et un grand honneur en l'acceptant, » répondit Dubourg. Elle se leva et secoua la tête en signe de refus. Elle garda néanmoins le vase dans sa main. « Je pourrais l'accepter si j'avais l'honneur de vous connaître, » lui répondit-elle. « Pourquoi cacher qui vous êtes et vivre seul dans une pareille solitude ?» Le jeune homme se tenait devant elle, la tête baissée, et laissa échapper un soupir amer. « Je sais bien que je devrais m'expliquer, et je ne suis nullement surpris de paraître suspect au voisinage. » Il s'arrêta un instant et ajouta avec vivacité, « Je ne saurais vous expliquer cela, à vous surtout. » « Et pourquoi donc ?»« Ne cherchez pas à le savoir, je vous en prie. » Lucille chercha du bout de sa canne le bord de la table et y posa le vase lentement et comme à regret. « Adieu, monsieur Dubourg, » dit-elle. Celui-ci lui ouvrit la porte sans mot dire. De ma cachette, je les vis tous deux passer dans le vestibule et traverser le petit enclos qui se trouvait sur le devant. En arrivant sur le gazon, Lucille se retourna et s'adressa de nouveau au jeune homme. « Vous ouvririez-vous à une de mes amies si je vous l'envoyais ? » demanda-t-elle. « De quelle amie voulez-vous parler ? » « De la dame que vous avez vue avec moi hier soir. » Il hésita un instant, puis il répondit qu'il craignait bien d'avoir blessé cette dame. « Raison de plus pour vous expliquer avec elle, » reprit Lucille. « Dites-lui tout, et si elle est satisfaite, je pourrai sans crainte vous inviter à venir nous rendre visite. Je pourrai même accepter le vase. » Après cette invitation fort claire, elle lui serra la main. Son sang-froid et sa familiarité auprès d'un inconnu, cette innocence mêlée de hardiesse, m'étonnèrent tellement que j'en restais comme pétrifié. « Je vous enverrai mon ami aujourd'hui même, » reprit-elle d'un ton assez impérieux et en frappant le gazon de sa canne. « J'exige que vous lui disiez toute la vérité. » Et, faisant signe au jeune homme de ne pas la suivre, elle reprit seule le chemin du village. N'êtes-vous pas aussi surpris que moi de voir que l'infirmité de Lucille avait eu un effet diamétralement opposé à ce qu'on pouvait en attendre et qu'au lieu de se sentir intimidée en présence d'un inconnu, elle se montrait on ne peut plus hardie. Dubourg resta immobile et la regarda s'éloigner. Je dois en toute justice reconnaître qu'il s'était montré pendant toute l'entrevue d'une déférence des plus respectueuses envers Lucille et que toute la timidité était de son côté. Je pus, grâce à une robe assez courte qui ne frôlait point l'herbe et en longeant le mur, arriver derrière le jeune homme sans qu'il s'en aperçût. « Quelle charmante jeune fille » disait-il en suivant des yeux Lucille qui s'éloignait. Je l'interrompis par un petit coup sec de mon ombrelle sur l'épaule. « Monsieur Dubourg, lui dis-je, me voilà prête à entendre votre confession. » Il tressaillit en me regardant, muet, concerné, rougissant et pâlissant tour à tour comme une jeune fille. Tous ceux qui ont étudié le caractère féminin comprendront que le trouble manifeste de ce jeune homme, au lieu de me radoucir, eut un effet tout contraire. « Croyez-vous, monsieur, lui dis-je, que dans la position où vous vous trouvez, il soit honnête d'attirer chez vous une jeune fille qui ne vous connaît pas et qui, vu son infirmité, a droit à plus de respect et d'égard qu'un gentleman n'en doit au beau sexe. » Il rougit de nouveau, mais cette fois ce fut de colère. « Vous êtes bien injuste envers moi, madame, de m'accuser d'avoir manqué de respect à cette demoiselle que j'estime et que je plains sincèrement. Si elle est entrée chez moi, c'est l'effet du hasard. Elle pourra vous le dire elle-même. » Je vis au ton qu'il prenait que je l'avais blessé. Voulant détourner sa colère et changeant de tactique, j'essayai sans vergogne ce que pourrait faire un peu de politesse. « Si j'ai été injuste envers vous, lui dis-je, je vous en demande pardon, tout en vous déclarant que je serais bien aise de connaître votre secret. » Ces paroles le calmèrent. Il se radoucit. « À vous dire la vérité, me répondit-il. « Je dois la connaissance de cette jeune fille au méchant roquet de l'auberge qui a suivi un jour la femme qui fait mon ménage. Il se mit à courir après elle en aboyant. Elle eut peur et après que j'eus chassé le chien, je l'invitai à entrer chez moi, à s'asseoir et à se remettre de son émotion. Que trouvez-vous de blâmable dans tout cela? Je ne nierai pas que je me sois senti pris d'un grand intérêt pour cette demoiselle et que j'ai fait tout mon possible pour lui être agréable tant qu'elle m'a fait l'honneur de rester chez moi. Êtes-vous satisfaite de mon explication ? Je suis bien forcée de reconnaître que je m'étais trompée dans l'opinion défavorable que je m'étais faite de ce jeune homme. Il s'exprimait en parfait homme du monde. Et puis, faut-il l'avouer, je le trouvais d'une beauté rare, quoiqu'un peu efféminée. Ses cheveux châtains frisaient naturellement, et ses yeux, brun clair, avaient une expression de douceur et de modestie. Il avait le teint d'une blancheur si pure qu'on eût dit celui d'une femme ou d'un jeune garçon. Du reste, sa figure imberbe lui donnait plutôt l'air d'un enfant que d'un homme. Enfin, si l'on m'eût demandé son âge, j'aurais répondu qu'il avait au moins 3 ans de moins que Lucile, bien qu'il en eût en réalité 3 de plus. Votre connaissance avec Mademoiselle Lucile a commencé d'une manière assez bizarre, en effet, et vous m'avez abordé hier d'un air si étrange que vous me pardonnerez si je vous ai parlé en termes un peu vifs. Veuillez agréer mes excuses et tâchons à l'avenir de nous montrer un peu plus justes l'un envers l'autre. J'avais encore quelque chose à vous demander avant de nous quitter. Pourrais-je, sans vous sembler indiscrète, vous suggérer l'idée de m'inviter à rentrer chez vous pour m'asseoir un instant ? Toute sa bonne humeur était revenue. Il se mit à rire et me précéda. Nous entrâmes tous deux dans la pièce que venait de quitter Lucile et nous nous mîmes près de la fenêtre. Mais je m'arrangeai pour qu'il eût le jour dans la figure en prenant le siège qu'il occupait quelques instants auparavant. Vous savez sans doute, monsieur Dubourg, que j'ai parfaitement entendu ce que vous a dit mademoiselle Lucile en vous quittant. Il inclina la tête en signe d'assentiment. Ses doigts se promenèrent avec agitation sur le vase d'or que Lucile avait laissé sur la table. Je voudrais savoir, puisque vous avez parlé de l'intérêt que vous ressentiez pour ma jeune amie, quelles sont vos intentions? Si l'intérêt que vous prenez à elle est d'une nature honorable, vous tâcherez de mériter mon estime en satisfaisant à ma demande. Dites-moi, en termes clairs et nets, si vous consentez à nous démontrer qu'en vous recevant, mademoiselle Lucile et moi, nous recevrons un bon voisin et ami et un homme d'honneur, ou dois-je, dans le cas contraire, prévenir le recteur de Dymchurch du danger que court sa fille en permettant à un homme dont les antécédents ne sont pas connus de s'insinuer dans ses bonnes grâces. Il posa le vase sur la table et devint pâle comme la mort. Si vous saviez toutes les souffrances que j'ai eues à endurer. Sa voix se troubla tandis que ses yeux se remplirent de larmes. Il baissa la tête et se tut. J'aime, comme la plupart des femmes, mes sœurs, qu'un homme soit un homme. Je trouvais quelque chose d'efféminé dans la manière dont ce Dubourg accueillait ma mise en demeure. Bien loin d'exciter ma compassion, il fut à deux doigts d'encourir mon mépris. Et moi aussi j'ai souffert, lui répondis-je, et j'ai enduré bien des misères. Mais mon courage ne m'abandonne pas comme il vous abandonne. Si j'étais à votre place et n'ayant rien à me reprocher, je ne voudrais pas laisser peser sur moi le plus léger soupçon, et je revendiquerai mon honneur à n'importe quel prix. J'aurai honte de pleurer, et je m'expliquerai bien haut. » Il fut blessé au vif et se redressa de toute sa hauteur. « Oui, s'écria-t-il avec violence, mais avez-vous eu, comme moi, des centaines d'yeux cruels et impitoyables braqués sur vous? Vous a-t-on partout montré au doigt sans trêve ni merci? Avez-vous souffert le pilori des feuilles publiques? La photographie elle-même vous a-t-elle fait, en exposant vos traits dans tous les magasins, une célébrité infâme ?» Il se rejeta sur sa chaise en se tordant les mains. « Oh, la foule, l'horrible foule! Je ne puis échapper à ses regards, pas même ici. Vous-même, vous m'avez sans doute regardé avec le même sentiment d'horreur que les autres, » dit-il en se tournant avec une sorte de rage vers moi. Je m'en suis bien aperçu lorsque vous avez passé près de moi hier soir. Je vous vois, lui répondis-je, pour la première fois de ma vie, et je ne connais pas même les portraits dont vous parlez. J'ai eu récemment trop de peine et d'anxiété pour m'amuser à regarder des photographies. Je ne vous connais pas même de nom. Si vous avez un peu d'amour-propre, vous me direz qui vous êtes. Allons, n'hésitez plus à me dire la vérité, vous en avez déjà trop dit pour reculer. Et vous le savez bien. En lui parlant ainsi, je lui saisis la main. J'avoue que le singulier accès de colère qu'il venait d'avoir avait porté le comble à ma surexcitation, au point même que j'avais à peine conscience de mes actes et de mes paroles. Nous ressentions en ce moment critique une méfiance mutuelle. Sa main étreignit convulsivement la mienne, tandis qu'il me regardait d'un œil égaré. « Lisez-vous les journaux ?» me dit-il. « Oui, » répondis-je. « N'auriez-vous pas vu, par hasard, le nom de Dubourg ? Jamais. Ce n'est pas là mon véritable nom. Quel est-il alors ?» Il se pencha et me le dit tout bas à l'oreille. Je tressaillis comme si la foudre m'avait frappé. « Grand Dieu ! M'écriai-je, vous seriez celui qu'on a jugé pour assassinat le mois dernier et qui a été à deux doigts de la potence grâce à une pendule dans laquelle la justice trouvait une preuve de son crime ?»